J'avais vraiment à cœur d'apporter et d'enseigner sur le thème de la louange et de l'adoration. Et vous savez, c'est quelque chose de central aujourd'hui à l'Église. Ça fait partie, ça prend un tiers de la célébration, le côté de la louange, de l'adoration, ce qu'on fait en musique. Il y a vraiment quelque chose entre le début de la réunion et la fin de la réunion, une église qui chante et qui célèbre. C'est quelque chose vraiment d'important, de central. Mais parfois, je vous le dis, on pourrait prendre pour acquis ce qu'on fait. Et parfois perdre un peu le sens de la réalité de ce que c'est la louange et de l'adoration. Et qu'on soit chrétien depuis 30 ans ou ça fasse que 30 minutes qu'on est ici à l'église pour la première fois, je crois que Dieu veut nous montrer combien la louange et l'adoration sont importantes à son cœur, qu'elles sont centrales pour l'église et c'est vraiment important qu'on puisse prendre des temps comme ça pour chanter et célébrer ensemble dans l'unité de foi. Mais également, elle doit être centrale dans ta vie, à toi, personnellement. Oui, je crois que la louange et l'adoration a une partie publique que dans l'église, on vient et avec tout le monde, on proclame les bontés de Dieu. Combien il est fidèle, combien il nous aime, combien nous avons été rachetés et combien nous sommes reconnaissants. Il y a une partie publique. Mais il ne faut jamais oublier qu'avec un balancier, il faut avoir une partie privée de l'adoration. Est-ce qu'en ce moment, tu loues Dieu et tu adores Dieu que seulement à l'église pendant une trentaine de minutes? Ou est-ce que ta vie est une adoration perpétuelle? Vous savez, la louange, des fois, on la réduit à un style musical, une trentaine de minutes dans le dimanche matin avec la musique. Mais en fait, avant d'être un style de musique, la louange et l'adoration doivent être un style de vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Et que vous soyez artiste ou que vous chantiez très faux, c'est pas grave. Dieu est bien plus préoccupé par la beauté de ton cœur dans la louange que par la beauté de ta voix. Alors, il faut que nous puissions comprendre que la louange et l'adoration ne doit pas être seulement réduit à un certain style de musique, avec un certain style de j'aime tellement ce worship leader là. Non, non, non. Il faut que nous puissions comprendre que notre vie doit être une louange chantée à Dieu. J'aime cette citation qui dit, la louange, c'est quand ma vie chante plus Jésus que ma voix. Il y a quelque chose que, est-ce que ta vie, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu rends gloire à Dieu? Parce que nous sommes appelés à être des instruments dans les mains de Dieu, pas seulement lorsque c'est musical, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Est-ce que je m'entendrai? Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pourquoi la louange est si importante? Et on va regarder trois vérités tirées de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous montrent comment nous devons adorer et pourquoi elle est aussi importante. Le premier point, la première vérité, c'est pourquoi la louange est si importante, c'est parce qu'elle nous permet d'adorer Dieu pour qui il est. La Bible dit de rendre honneur à qui honneur est dû. Et souvent, on prend ce texte-là pour expliquer que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les gens qu'on doit honorer, nous devons les honorer. Mais je crois que ce verset-là doit premièrement arriver à dire, il faut louer Dieu pour qui il est. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, il est celui qui est digne de recevoir la louange, l'adoration, l'honneur de l'humanité au complet, et donc de son Église en priorité. Et vous savez, alors qu'on regarde ça, souvent la louange, on est reconnaissant à Dieu quand on reçoit quelque chose de Dieu. Souvent la louange est naturelle envers nous quand on remercie Dieu pour ce qu'il fait. Mais je crois que bibliquement, la vraie adoration, c'est quand nous venons, et avant même de le remercier pour ce qu'il nous a donné, nous devons juste l'honorer et l'adorer pour qui il est. Si quelqu'un d'important rentrait ici aujourd'hui, et puis je ne veux pas les citer parce que vous allez me dire, oh, ça c'est trop politique, c'est ça. Non mais imaginez, quelqu'un que vous admirez, entrer ici. Il ne vous donne rien, mais juste parce qu'il rentre ici et que c'est quelqu'un que vous admirez, juste vous lui donnez honneur. Vous lui feriez une place à côté s'il n'y avait pas de place pour vous. Vrai, j'espère, vous n'êtes pas aussi égoïste que ça. Non, on essaierait d'honorer la personne. Si quelqu'un vient chez vous, frappe à votre porte et puis que vous ouvrez, c'est le grand patron de ton entreprise qui est là. Et puis, wow, vous auriez un certain honneur. Pas seulement parce qu'il vous donne quelque chose, mais juste par la stature de la personne. La Bible nous dit que chacun de nous, on est important et qu'on doit donner honneur à n'importe qui. Que ce soit un itinérant ou que ce soit le big boss de Microsoft, nous devons honorer chaque homme et chaque femme. Chaque homme et chaque femme est aimé de Dieu et nous devons respecter. Il a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est pour ça que s'il est important pour Dieu, il doit être important pour nous. Par contre, cela dit, c'est que l'honneur que nous devons premièrement donner n'est pas aux hommes, ni aux femmes, ni aux enfants, c'est à Dieu. Car il est le créateur de toutes choses. Il est celui, et puis c'est 1 Chronique 29, 11, qui dit justement, « À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Est-ce que parfois on voit Dieu juste pour ce qu'il nous donne, comme le génie d'une lampe que tu frottes, et puis qu'à un moment donné, « Ah, j'ai 3 vœux aujourd'hui, ok, c'est parfait. » C'est comme, non, Dieu est bien plus grand que juste ton faiseur de miracles. Dieu est le Créateur qui tient l'univers dans sa main, qui a fait en sorte que toute vie réside en lui. Et c'est pour ça que nous devons comprendre, nous, en tant qu'Église, que Dieu est bien plus grand que juste ce qu'il nous donne. Dieu est Dieu, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que nous devons comprendre réellement qu'avant même d'être reconnaissant pour les bontés de Dieu, puis on va le voir tantôt, oui, il y a une louange pour reconnaître que Dieu nous donne, mais il faut que nous puissions venir et sans aucun autre intérêt, juste de dire merci Dieu pour qui tu es, car la grandeur, l'éternité, la vie t'appartient, et tu as fait de nous des êtres qui peuvent contempler ta gloire. Et Dieu n'est pas venu juste pour nous créer en disant « Maintenant, on se reverra juste après la mort. » Non, non, non. Dieu veut nous accompagner dans cette vie. Et même après la mort physique, il veut que nous puissions le rejoindre pour l'éternité, pour être dans sa gloire. Donc Dieu n'est pas là juste un créateur lointain de sa création. Au contraire, il est présent, il est avec nous, il est ici aujourd'hui. Et dans la joie, la gloire de son peuple, dans les acclamations, Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est ici présent et qui nous aime? Un de mes chants préférés, c'est un chant d'impact qu'on disait, et puis il nomme les noms de Dieu. Et j'aime le chanter parce que c'est pas seulement ce qu'il fait pour moi, c'est qui il est. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Tous ces noms sont tirés de la Bible. Voici comment la Bible dit, voici qui est Dieu, le Créateur. Est-ce que tu connais Dieu intimement? Ou est-ce que tu connais seulement le pourvoyeur? Celui que je lui demande des miracles et le faiseur de miracles. Est-ce qu'en ce moment, Dieu est Dieu dans ta vie? Ou il est seulement le guichet automatique à lequel tu dis, oh, j'ai des prières, il faut que je vienne à Dieu. Non, revenons à une adoration authentique devant Dieu en disant, même si Dieu ne faisait rien pour moi, juste d'être Dieu et de m'avoir créé, c'est déjà toute la reconnaissance que je dois lui donner. Si Dieu ne me bénit même pas, je dois être capable de le voir comme il est Dieu, il a toute ma reconnaissance, ma gloire, l'honneur. Et parfois, ça peut paraître difficile en disant, ouais, mais s'il me donnait rien, pourquoi je devrais le louer? Ça, c'est très égoïste. J'aime pas mes enfants parce qu'ils me donnent quelque chose. J'aime mes enfants parce qu'ils sont mes enfants. Et même s'il se détournait de moi et qu'il partait comme le fils prodigue, je devrais comme Dieu être celui qui a un amour inconditionnel. Donc si nous sommes capables d'aimer inconditionnellement, comment on pourrait pas aimer notre Dieu qui lui est le Créateur? Et tout ce que nous avons vient de lui. Alors c'est pour ça que même si Dieu ne nous bénissait pas, nous devrions l'honorer, mais nous savons que Dieu ne peut pas nous bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un côté où Dieu n'est pas le condamnateur, Dieu n'est pas le juge. Parfois, on voit Dieu comme celui de la mythologie grecque, celui qui punit, qui envoie des éclairs, celui qui est tellement... Il n'y a pas d'émotion en lui. Non, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un Dieu qui s'est fait homme pour que nous puissions être sauvés. C'est pas celui qui juge. Oui, notre Dieu jugera. Oui, notre Dieu est 3 fois saint. Mais aujourd'hui, il est notre avocat. Aujourd'hui, si tu es là, c'est un jour de grâce et Dieu veut te dire, je suis ton sauveur aujourd'hui. Alors il y a une bonne nouvelle et juste pour ça, il faut qu'on puisse célébrer notre Dieu. La louange n'est pas pour nous. Souvent quand je parle avec des gens, on a l'impression qu'on change un petit peu le destinataire de la louange. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, oh ça c'est ma toune. Oh, quand c'est ce worship leader là, oh j'aime tellement, oh, ce service de louange était tellement bon. Hey, news, c'est pas pour toi la louange. Que tu aimes ou que tu aimes pas. Parfois, malheureusement, c'est que on met cette catégorie en disant que oh, si j'aime ce que j'entends, si j'aime ce qui est dit, si j'aime le vibe, si j'aime la voix de la personne, oh là, je vais vraiment louer. Est-ce que c'est pas trop égoïste? La louange qui doit revenir à Dieu va être en fait circonstancielle de est-ce que j'aime bien ça? Ça doit pas être comme ça. Dieu doit recevoir tout la louange, l'honneur. Si jamais il y avait aucune musique dans ta vie, est-ce que ta vie chanterait à Dieu? Est-ce que tu serais en train d'adorer Dieu par tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis? Parce que la Bible nous dit, hein, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que corps, âme et esprit, tout ce que je suis doit être une louange à Dieu. Alors, c'est pas pour moi la louange, c'est pas juste si ça me plaît. Des fois, on est des juges. Oh, c'était mieux la semaine dernière. Oh, ouais, je... Non, c'est pas pour toi. Et on va jamais se dire, c'est pas pour toi, donc on va faire n'importe quoi. Au contraire, merci pour les artistes qui se préparent, qui viennent ici à 6 heures du matin, qui travaillent leur instrument, qui donnent leur excellence. Et merci parce que ça, ça nous aide à voir la bonté de Dieu, puis à célébrer le cœur. Quand il y a des chants qui sont dits, c'est comme des paroles que j'arriverai même pas à prier moi-même. Mais des chants comme ça dans la louange, ça m'aide à élever mon âme vers Dieu en disant, Seigneur, c'est toi. Est-ce qu'on peut remercier tous les artistes, les chanteurs, les worship leaders, musiciens, techniciens? Es-tu de plus en plus en contemplation devant qui Dieu est? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux louer Dieu d'une manière encore plus authentique et plus vraie que la semaine dernière, que l'année dernière? Ou est-ce que tu es de plus en plus critique sur la louange et l'adoration? Est-ce que tu es de plus en plus sélectif en disant la louange et l'adoration, c'est le dimanche matin à 9h ou à 11h30? Ou si j'arrive en retard, il n'y en aura pas, on sautera une semaine d'après. Je parle à quelqu'un. Mais il y a quelque chose de fort parce qu'il faut que notre vie soit dans la louange et l'adoration. Es-tu à la bonne place quand tu viens louer à l'église? Est-ce que quand tu célèbres Dieu, la fidélité, est-ce que tu es pleinement là où tes pensées sont juste machinales, en train de penser à toute ton épicerie que tu vas faire, à la personne que tu as dit « Ah, je l'ai vu dans le hall ». Et puis là, tu es en train de chanter la bonté de Dieu, mais tu n'es juste pas là. Ça vous est déjà arrivé d'être là sans être pas là? J'ai vu une photo qui m'a fait rire cette semaine. C'est une femme qui texte son mari, qui est parti depuis une heure de la maison, puis elle dit « T'es où en ce moment, chérie ?» Puis lui, il dit « Au gym ».« Ah ouais? Ok, envoie-moi une photo. » Puis lui envoie cette photo-là. Qui sait que c'est... Combien savent que c'est pas réellement le vrai gym? C'est pas parce que tu rajoutes deux petites lettres comme ça que... Des fois, t'es là, mais t'es pas là. Combien de fois on vient dans la présence de Dieu et on devrait venir pour lui, pour l'adorer, pour l'honorer? Puis en fait, t'es complètement ailleurs. Que ce matin, on puisse être réveillé en disant, Seigneur, donne-moi de voir ta présence et le privilège d'entrer dans ta présence. Vous savez, il y a des millions de chrétiens qui vivent sous la persécution aujourd'hui, qui rêveraient être à ta place. Et ils jugeraient pas comme tu juges. Il dirait, quelle grâce, si je pouvais juste contempler, être dans... David, dans les psaumes, disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce qu'on comprend que David devait se déplacer dans un lieu pour pouvoir adorer Dieu? Nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui s'est déplacé pour vivre dans notre vie. Nous vivons une grâce que même David ne connaissait pas. Est-ce qu'on néglige ce privilège d'être dans la présence de Dieu? Et avec la technologie, aujourd'hui, tu rentres dans ta voiture et puis tu mets ton album de worship, puis tu es comme juste en adoration. Je crois que nous devons revenir à dire, Seigneur, donne-moi une soif de t'adorer comme tu le désires. Dieu est plus préoccupé par la beauté de ta voix, par la beauté de ton cœur que par la beauté de ta voix. La louange est d'abord un phénomène spirituel avant d'être un phénomène musical. Mais je crois réellement que c'est important que nous puissions prendre des temps ensemble dans l'unité pour célébrer Dieu. La louange, j'aime cette citation qui dit « La louange, c'est arrêter de voir tout ce qui va mal en moi et de commencer à voir tout ce qui est bon en Dieu. » Change le focus. Commence plus à dire « Mais est-ce que moi, et puis demain, je reprends le travail et les problèmes ?» Non, la louange, c'est « Seigneur, donne-moi de te voir toi. Et au plus je te vois toi, au plus moi, mais je suis dans la joie juste de savoir que tu es là et que tu vis en moi. Et la grâce de savoir que Dieu a le regard sur moi. » Est-ce que je peux entendre « Amen » ? La deuxième vérité pourquoi la louange est si importante, c'est parce qu'elle nous permet d'exprimer notre reconnaissance pour ce qu'il fait. On l'a dit, on doit honorer Dieu pour qui il est, mais il ne faut jamais oublier de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Trop souvent, et puis vous allez vous reconnaître parce que c'est ma vie, je demande à Dieu des miracles jour après jour. « Seigneur, voici mes besoins. » Et même quand Dieu répond à mes prières, j'ai tellement d'autres besoins que j'oublie même de le remercier pour ce qu'il est en train de faire. Ça vous est déjà arrivé? De s'arrêter chaque jour et puis de dire, Seigneur, merci pour les choses que je t'ai priées il y a des années et qui sont en train de se faire aujourd'hui. Merci pour les choses que tu n'as peut-être pas encore répondu en ce moment, mais je sais que tu es attentif à ma prière. Tu es à l'écoute. C'est pour ça que même aujourd'hui, même si j'ai des besoins, je veux quand même te remercier parce que tu as l'oreille attentive à ton peuple. Merci parce que je marche aujourd'hui dans une victoire que ça faisait des années que je priais pour. Merci aujourd'hui. Combien de listes et de cahiers on pourrait écrire aujourd'hui pour les bontés que Dieu t'a données? Est-ce que ta vie chante une reconnaissance? Ou est-ce que ta vie est toujours dans l'insatisfaction? Oui, mais il ne m'a pas donné ça. Je suis toujours célibataire. Non, mais tu vois, je lui avais demandé une augmentation, puis je n'ai même pas eu 10% d'augmentation. C'est quand même, lui, il pourrait m'en donner. Est-ce qu'on est toujours insatisfait? C'est une question rhétorique. Ne répondez pas, parce que moi, je réponds oui à ma propre question. On est trop à regarder ce qui nous manque, alors que si on voyait la bonté de Dieu envers nous. Si aujourd'hui, tu dis, ouais, mais je suis célibataire, puis j'ai du mal à louer. Loue Dieu pour la santé. Si aujourd'hui, tu te dis, ouais, mais j'ai pas la santé. Loue Dieu pour la famille. Si aujourd'hui, en fait, peu importe, et je sais ici qu'il y a du monde qui passe par la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des gens ici qui vivent des situations catastrophiques. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle, que Dieu est fidèle et que cette vallée de l'ombre de la mort en ce moment que tu vis, ce n'est pas ta vie qui va être définie par ça. Et Dieu veut être le Dieu fidèle et bon dans cette vallée avec toi. C'est David qui dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est paradoxal. Il y a du monde qui en voulait à sa vie, mais il dit, je ne crains aucun mal car tu es là. La présence de Dieu dans les tempêtes fait que mon âme peut être dans la joie parce que je sais que cette tempête-là ne va pas durer et qu'elle va même, parce que Dieu est bon, changer le mal en bien pour qu'une fois sorti de cette tempête, je puisse témoigner de la gloire de Dieu. Combien qui l'ont vécu peuvent applaudir? Ton attitude de reconnaissance détermine ton niveau de paix. Vous savez, les gens ne sont pas reconnaissants parce qu'ils sont heureux. Les gens sont heureux parce qu'ils sont reconnaissants. Il y a des gens qui ont 1000 fois moins que nous. J'ai déjà été dans des pays où il y a vraiment des gens qui vivent dans des bidonvilles, mais ils avaient une joie de vivre. Parce qu'ils ne regardaient pas ce qu'ils n'avaient pas, ils regardaient tout ce qu'ils avaient. Et ils avaient peu comparé à nous. Mais s'ils avaient juste la reconnaissance pour ce qu'ils ont, ils sont plus riches que nous dans la gratitude. Vous savez, le riche envie le pauvre qui dit merci. Il y a parfois des riches qui en ont tellement pas assez, qui vivent tout le temps dans une insatisfaction, alors que le pauvre qui dit, moi, tout ce que j'ai, ça me suffit, merci pour ça, il est plus heureux que le riche. Vous me comprenez? Puis c'est pas un jugement de valeur, c'est juste le principe de, est-ce que tu es reconnaissant pour ta vie en ce moment, ou tu es juste en train d'essayer de comparer l'autre à côté? J'ai pas ça, tu peux pas te comparer. Compte pas les bénédictions des autres, compte les tiennes. Il y avait un vieux chant dans mon église qu'on chantait « Compte les bienfaits de Dieu ». Ah, il y a du monde un peu plus vieux. « Mets-les tous devant tes yeux, oh, tu verras, merci, en adorant combien le nombre en est grand. » Arrête-toi 2 secondes. Compte combien les bénédictions depuis 1 jour, 2 jours, 7 jours, ta vie entière. Tu ne pourras même pas imaginer la bénédiction que Dieu te donne. Le matin, en amenant Lénie à l'école, je me donne un objectif, c'est de continuer de l'amener à pied et de m'arrêter au parc, à côté de chez moi, et de prendre un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange. Je mets mes écouteurs, j'ai mes playlists de louange, et puis je passe un moment donné seul à seul avec Dieu. Et c'est fort. L'été, ça va bien parce qu'il fait chaud. L'hiver, à moins 15, cette semaine, c'était un petit peu plus piquant. Mais je me suis donné comme objectif d'y aller parce que j'ai un de mes amis qui recommence à venir dans la foi après une vie complètement chaotique. Et puis je lui fais un défi avec lui. Je lui ai dit, tous les jours, je vais me poser dans le parc et puis je vais prendre une photo de ma Bible avec le parc et on lira ensemble un chapitre par jour. Et il m'a dit, OK. Alors je me suis donné comme objectif de dire, oh, enfin, je sors de chez moi, je prends l'air et je fais un petit peu de sport. Et deux, je prends un temps pour encourager mon âme et son âme. Et cette semaine, alors qu'il neigeait, c'était quand même moins 15, moins 20, là, facteur vent. Et il y avait tellement de neige, tout ça. Mais ça m'a rappelé, puis ça m'a rappelé la grâce de Dieu dans toutes ses bontés. Avez-vous déjà pris un instant pour regarder les flocons de neige qui tombent? Vous savez que les flocons de neige sont, puis il y a des flocons de neige sous microscope. Aucun, il n'y en a pas deux pareils. Ils sont tous uniques. Des scientifiques ont fait des années pour étudier. Il n'y a jamais un flocon de neige qui est pareil qu'un autre. Mais imaginez les tonnes de neige qui tombent, surtout au Québec en ce moment, mais dans le monde depuis des millénaires. Il y a quelque chose de fort que même dans la création, Dieu a designé quelque chose qui chante sa gloire. Même quelque chose que tu essayes d'analyser en 2 secondes, c'est parti. L'éphémère, mais c'est parce que même la création chante la gloire de Dieu. Il faut qu'on comprenne que la création, tout ce que Dieu a créé, chante la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible a dit, hein, ceux qui ne voient pas Dieu au travers de la création, ils sont inexcusables. Parce que même la création, quand je vois les galaxies, les univers, les choses, les milliards de choses, mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il nous montre sa grandeur. Et quand on regarde l'infiniment petit, on voit sa puissance dans l'infiniment petit. Dieu est partout présent. À nous d'ouvrir nos yeux. Et alors que j'étais en train de regarder ces flocons tomber, il y a un verset qui est venu me rappeler que les bontés de Dieu, que les bontés d'Éternel se renouvellent chaque jour. C'est-à-dire qu'elles sont plus nombreuses que les, que les flocons de neige. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Les bontés que Dieu nous donne, les protections qu'il nous donne, les miracles qu'il nous donne, les réponses à nos prières qu'il nous donne, juste d'écouter et d'être dans sa présence, toutes ces bontés-là sont infinies à notre égard. Mais parfois, on n'a pas les yeux ouverts pour le voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être une église réveillée avec des yeux ouverts en disant, Seigneur, tu nous bénis tellement que même si en ce moment, dans ma situation, rien ne changeait, je devrais quand même, j'ai tellement des milliards de choses à te dire merci que je ne veux pas laisser les pierres crier et te louer. Moi, je vais prendre ma place dans la louange. Est-ce qu'on peut être une église réveillée pour cela? Bénir Dieu pour ses bontés, le louer pour ce qu'il fait, mais aussi les victoires qu'il nous donne. Vous savez, on le sait, hein, on passe par des situations des fois où les combats dans nos pensées, les combats spirituels même, sont tellement intenses. Mais il faut que nous puissions louer et avoir un champ de victoire dans ces combats parce que Dieu nous donne protection. Il nous donne l'assurance que dans le combat, la parole de Dieu dit que Dieu combat pour nous. Si tu es chrétien aujourd'hui, que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu n'es plus appelé serviteur ou étranger, tu es appelé enfant de Dieu. Tu es le fils et la fille de Dieu, co-héritier avec Jésus du royaume de Dieu. Je veux juste remettre les pendules à l'heure là. Quand Dieu te voit, il ne te voit plus comme pécheur. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, ça veut dire qu'en lui, tu es justifié. Ton passé est complètement, la page est tournée. Et aujourd'hui, il te voit comme son enfant. C'est pour ça que quand tu combats, Dieu combat pour toi. Dieu combat dans tes combats. Il a déjà eu la victoire. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Parce que parfois, on voit tellement le combat qu'on est comme défaitiste. On est comme totalement sous une charge. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez, c'est pas... Non, non, c'est vrai, c'est réel. Mais il faut que notre âme sache que Dieu a déjà eu la victoire et que dans nos combats, Dieu marche devant moi. L'Éternel des armées combat pour moi. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions avoir une vie dans l'adoration. Parce qu'il y a un texte frappant dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, on va le lire ensemble, 2 Chroniques 20. Et c'est intéressant parce que là, c'est fort parce que le peuple est sous une attaque ennemie. Tous les ennemis veulent essayer de décimer le peuple de Dieu. Et alors qu'ils sont là, le roi va convoquer toute l'assemblée, donc tout le peuple va devenir. C'est fort parce qu'il y a un sens d'unité où toute l'Église doit venir ensemble pour se placer devant la face de Dieu, pour rechercher sa volonté. Donc c'est fort, c'est pour ça que l'église locale, tu ne peux pas la vivre individuellement. Venir ici, t'asseoir, repartir. Non, non, l'église, c'est venir et rencontrer le peuple de Dieu, unir nos voix. Dans la louange, il y a une atmosphère de foi que quand toi, tu es désespéré, la foi de quelqu'un d'autre te relève. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à vivre isolés, nous sommes appelés à vivre en communauté. Moi, j'aime bien avoir ma bulle, mais j'aime aussi avoir le côté dans l'église, il y a quelque chose de fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On sent la présence de Dieu quand il y a une atmosphère de foi, il y a une onction qui est là. Et alors que tout le peuple est appelé à venir pour chercher la face de Dieu pour ce combat spirituel qui va avoir lieu, c'est intéressant. Et puis pourquoi aussi même cette matinée, je la voulais avec la louange, avec les enfants, parce que dans ce texte-là, ils vont demander à toutes les familles de venir, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et ils vont venir, on va non seulement venir en unité tout le peuple devant Dieu, mais aussi on va venir toute la famille ensemble devant, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et à ce moment-là, ils cherchent la face de Dieu et Dieu va parler d'une manière incroyable. On lit le texte 2 Chroniques 20, si vous avez votre Bible, versets 13 à 22. Si vous ne l'avez pas, il y a le PowerPoint ici. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jacaziel, le Lévite, on pourrait dire le conducteur de louanges, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Donc là, il y a une prophétie qui est donnée. « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Les Lévites, donc tout le band de louanges, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils sont devant un combat entre la vie et la mort et tout ce qu'ils font, c'est commencer à élever la voix en disant « Seigneur, merci ». Ils l'adorent pour qui il est, pour la victoire qu'il leur donne. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, à tout le peuple, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez réussis, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, c'est important d'être unis ensemble, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Verset 22. « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Ce texte est fort parce qu'il nous montre que le peuple de Dieu est devant une situation catastrophique, devant un combat qui est là, entre la vie et la mort. Et Dieu leur dit « Je vous ai déjà donné la victoire, maintenant célébrez. » Et le peuple place devant les soldats les chantres, la chorale. Ils mettent les musiciens, les artistes. Ce n'est pas forcément des vaillants héros, ce n'est pas des hommes de guerre. Vous voyez ma carrure, je suis un artiste, j'aime chanter, j'aime composer. Il y a quelque chose où je ne suis pas un vaillant guerrier qui donne-moi une arme. Je n'ai aucune idée comment se servir d'une arme. Mais la stratégie pour aller en guerre, c'est de mettre les gens artistes devant qui disent « Conduis le peuple dans la louange et l'adoration ». Et à ce moment-là, alors que les chants commencent à retentir, Dieu est en train de gagner pour son peuple. Ça veut dire à quelqu'un ici. Il faut que tu puisses trouver dans ta vie et dans ta journée des moments où tu vas venir adorer Dieu. Parce que je crois que dans certains combats, tu n'auras que la victoire quand tu viendras proclamer qui est Dieu dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. Tu sais, Dieu dit, venez, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc oui, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a plein de manières de venir devant Dieu. Mais je crois aussi que Dieu veut que son peuple vienne et l'adore pour qui il est. Et alors que toi, tu poses tes yeux sur lui, lui, il est en train de régler tes affaires ici. Remets la louange au centre de ta vie. Nous avons été créés pour adorer Dieu. David le disait, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Ta vie ici, même si tu dis elle n'a pas de sens, elle n'a de sens que quand tu adores Dieu. Donc en ce moment, remets l'adoration, la louange, qu'il y ait de la musique ou pas, que tu sois à l'église ou pas, que remets l'adoration au centre de ta vie parce que Dieu combat pour tes victoires et lui va te donner l'accomplissement de tout ce que tu recherches. Mais je crois que si tu restes en dehors de ce temps de louange et ce temps d'adoration, tu peux manquer des victoires que Dieu veut te donner. Le peuple de Dieu est appelé à proclamer qui est Dieu et la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui est paradoxal. J'ai même pas à combattre que Dieu a déjà tout accompli et ma victoire est en lui. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a la victoire pour nous? La louange, c'est comme dire à Dieu, je te laisse d'occuper du feu qui brûle autour de moi. Des fois, on vit des situations qui sont tellement chaotiques qu'on a l'impression que le feu est parti partout. Et partout autour de nous, ça prend feu. Mais j'ai vu une photo cette semaine qui m'a rappelé une vérité. C'est que durant les incendies intenses qui sévissaient aux États-Unis à l'automne 2017, un propriétaire d'une maison, il y a la photo qui arrive, au Kansas, a lancé son système d'arrosage automatique avant de quitter sa maison. Il a pu revenir y vivre quelques jours après, alors que tout autour avait été complètement calciné. Lui, il s'est dit, je vais quitter la maison, mais je vais lancer l'arrosage automatique. Il y en a, je vous vois, ils sont en train de dire, je vais investir aujourd'hui même sur un super... Je ne pense pas qu'il y aura des feux de forêt en ce moment au Québec, mais tu auras quelques mois pour te prévenir. Mais c'est fort parce que je me disais, il y a tellement une vérité spirituelle. Il ne pouvait pas combattre, lui, le feu. Il ne pouvait pas commencer, lui, à éteindre. Il a juste dit, je vais mettre ce qui est déjà en place pour protéger, pour comme faire un dôme de protection contre le feu qui envahit. Quand tout brûle autour de toi, quand les feux spirituels sont autour de toi, commence à louer Dieu, commence à adorer Dieu. Et la présence de Dieu va rafraîchir ton âme, va rafraîchir la situation. Et la victoire que tu es en train de combattre pour, c'est lui qui va l'avoir. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa victoire? Est-ce qu'en ce moment, tu as déserté le lieu de louange et d'adoration? Est-ce que ta vie est tellement en train de courir partout et puis notre vie, elle roule à 100 à l'heure? Mais est-ce qu'en ce moment, tu as déserté le lieu du combat où Dieu voulait te donner la victoire? Est-ce que tu es tellement en train de demander à Dieu sa victoire que lui, il dit, viens dans ma présence? Moi, je suis dans la tienne, mais est-ce que toi, tu viens dans ma présence? Est-ce que toi, tu t'abandonnes? Ou est-ce que toi, tu es juste en train de m'attendre que, fais ça, je te l'ai demandé. Non, viens me connaître pour qui je suis. Oui, Dieu nous bénit, mais ce qu'il veut avant tout, c'est d'être en relation avec nous. Je suis tellement heureux quand mes enfants viennent et me serrent dans les bras le matin pour qui je suis. Je ne leur ai même pas encore donné à manger ou de bonbons. Et ils ne le font pas juste pour essayer de gagner mon amour. Ben, parfois, oui, mais en tout cas, le matin, non. Ils viennent juste parce qu'ils sont contents de me voir. Et puis, je chéris ces moments-là, mais je me dis tellement, moi, je suis un papa qui essaye de faire le mieux possible, mais je suis tellement imparfait. Mais combien Dieu, lui, est amour ? grâce, pardon. Il veut nous voir venir dans sa présence, pas seulement pour lui demander « Est-ce que tu as un billet de vin pour moi, s'il te plaît ?» Non, non, non. « Seigneur, je veux juste venir à toi parce que tu es le Créateur, tu es le réparateur de mon âme. Si je suis ici aujourd'hui à vous parler et à vous annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu a tellement fait pour moi que je ne peux pas me taire. Il faut que je le crie au monde. Mais votre vie est la même chose. Vous devez le crier à vos enfants, de dire « Hey, tu sais, tout ce qu'on a ici, c'est grâce à Dieu. » Est-ce que vos enfants savent combien vous êtes reconnaissant à Dieu? Et certains des hommes peut-être vont dire « Ah non, moi je suis émotionnel, je ne suis pas de ce genre-là de dire « Ah oui, et puis Dieu. » Est-ce que tes enfants te voient plus célébrer le Super Bowl ou Dieu dans ta vie? Parce que les gens les plus stiff d'habitude sont ceux avec quelques ailes de poulet et puis une bière. À un moment donné, ils sont tellement à sauter dans le... Et je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'on remet les priorités au bon endroit. On a tous regardé le Super Bowl, on est tous 22, mais à un moment donné, est-ce que l'adoration, la louange et la célébration, on la voit juste dans ton sport préféré? Ou est-ce que ta vie est marquée par le sceau de la bonté de Dieu et que tu reconnais que celui à qui je dois chanter le plus fort, célébrer, celui qui est l'auteur de ma joie, ben c'est Dieu parce que j'ai été racheté en lui. Et je ne vais pas laisser quelque chose de charnel ou qui peut juste disparaître à tout moment me donner la joie. La joie de mon salut, c'est ça qui doit exploser chez moi et mes enfants vont m'entendre être un adorateur. Amen. Est-ce que tu es un modèle d'adorateur? C'est important de venir avec les enfants ce matin parce que je me disais, c'est peut-être la seule fois où ils voient leurs parents chanter, où ils voient leurs parents adorer, où ils entendent l'Église chanter. Puis, on croit réellement qu'à Nouvelle Vie Junior, ils font un travail incroyable. À chaque fois que vous allez récupérer vos enfants, bénissez-les, remerciez-les. Ces gens-là sont des héros, hein, vraiment. Mais est-ce que chez toi, tu es celui qui modèle la maison comme voici, cette maison, ben c'est la maison de Dieu. Et ici, tout est une reconnaissance envers Dieu. L'adoration. Voici. Est-ce que tu témoignes de la bonté de Dieu à tes enfants ou tu le laisses à NV Junior? Et eux vont le faire de la meilleure manière, mais ce n'est pas leur responsabilité première de le faire, c'est la tienne. Et je parle parce qu'on est une église de jeunes familles aujourd'hui, puis c'est la semaine de relâche. Prends du temps peut-être cette semaine à poser puis à dire, hé, regarde, de génération en génération, regarde comment Dieu nous a bénis, voici comment il veut te bénir. Est-ce que tu peux être celui qui amène ta famille dans la louange et l'adoration? Dites amen. Mais je me souvenais, alors que j'ai eu mes parents hier sur FaceTime, ils habitent en France, et alors que je leur parlais, je me suis rappelé d'une histoire que ma mère m'a parlé. Et moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis une famille d'artistes. Et puis, il y a une photo qui arrive. Vous avez compris que le petit là-devant, c'est moi. C'est ma mère, ma grande sœur Sandy, mon frère Dan qui se cache en arrière avec le micro. Et alors qu'on chantait des fois à l'église, moi, j'étais celui qui voulait jamais chanter. Je voulais juste me cacher. Je n'aimais pas le stage. C'est le comble pour un pasteur. Mais il y a quelque chose de fort parce qu'elle m'a raconté cette histoire. Et puis, je dis, ouais, c'est tellement fort. Elle me dit, alors qu'on était là à l'église, je pense que c'était un message sur la famille et l'importance de la famille, des liens et tout ça. Puis, ils avaient demandé à mon père et ma mère, qui chantaient depuis toujours, de chanter un chant justement pour la famille. Alors, on a pratiqué un chant. C'était un vieux chant, puis ça se disait comme ça. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et puis, ce chant-là était un beau chant de famille, puis avec les enfants. On le chantait. Et au moment où ma famille monte sur le stage, prend la guitare, le piano et tout ça, mais tout le monde est là, sauf moi. Moi, je ne voulais pas monter. Je ne voulais pas du tout être là. J'aimais juste pas être sur le stage devant les yeux de tout le monde. Comprenez-moi. Hein? Faites pas les pharisiens, genre comme « Ah ouais ?» Vous aussi, vous aimeriez pas être ici. Parler en avant. Parler, c'est une chose. Chanter en est une autre. OK? Mais alors que j'étais en train de me cacher dans les rangs, mon père dit « On va y aller, on va pas faire attendre l'église et tout ça. » Puis ma mère, elle dit « Non, ce chant-là est tellement important qu'il ne peut pas manquer une personne sur ce chant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que Ben soit avec nous. » Là, mon père, mon frère et ma sœur sont comme « OK, on va pas faire attendre l'église. » Imaginez là, tu sais, 10 secondes de blanc, c'est très long dans une assemblée. Tu veux le flow le plus parfait. Là, c'est comme, OK, désolé, on attend Ben. Ben est demandé à l'accueil de l'église, il est où? Moi, j'étais en train de me cacher. J'imagine que ça doit être ma tante ou ma grand-mère qui m'a pris en disant, il est là. Et elle m'a ramené de force sur le stage. Mais ma mère, elle me dit, c'est fort parce que j'ai une conviction dans mon cœur que on ne pouvait pas chanter ce chant-là qui était une proclamation de la grandeur de Dieu et puis de côté, non, moi et ma maison, nous servions. Il faut qu'on l'attende. Et elle a tenu son bout parce qu'elle a dit, non, 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 on va l'attendre, il faut qu'il vienne. Et pendant des secondes comme ça, jusqu'à temps que je vienne, je ne sais pas si j'ai chanté de tout mon cœur, mais en tout cas, j'ai chanté, j'étais dans la famille. Mais elle a dit, il y avait comme quelque chose de fort parce que ce chant-là, pour moi, était une proclamation et une promesse de Dieu. Et il fallait que tout le monde soit là. Puis j'ai dit, c'est symbolique, c'est beau, c'est beau. Puis la prière d'une mère, je vous le dis, il y a une puissance spirituelle dans la prière quand une mère prie. Mais alors qu'elle me disait ça, je me disais, ah, c'est fort. Est-ce que parfois, on laisse l'option dans la louange à dire, regarde, Seigneur, ben, les enfants, ils ne suivent pas Dieu. Les parents, les frères et sœurs, puis il y a des gens qui refusent, mais regarde, on va faire avec ce qu'on a. Ou est-ce que tu te bats dans la louange pour ta famille? Ou est-ce que tu dis, ce chant-là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le proclamerai à mon âme tous les jours de ma vie jusqu'à ce que Jésus vienne me rechercher. Et je le prendrai en disant, Seigneur, toute ma famille, je te demande de venir sauver. Je te demande de venir. Et dans la louange, je crois réellement que Dieu brise des chaînes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, on ne veut pas être mystique. On ne veut pas être weird. Mais en même temps, Dieu est esprit. Et il y a des choses spirituelles et surnaturelles qui viennent. Alors, quand son peuple, quand une famille, quand des parents viennent et en disant, Seigneur, on te prie pour nos enfants. On veut t'élever. Toi, qui es le Dieu des cieux, sois le Dieu de mes enfants. Viens, Seigneur Jésus, les prends. Et je crois que Dieu envoie des cordages d'amour pour venir rechercher, ramener une réconciliation entre des parents, des enfants, des frères et sœurs, des couples. Je crois que la louange au centre de nos familles va faire des victoires spirituelles. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu va faire au travers de nos familles? Et alors qu'on regarde ensemble la troisième et dernière chose, pourquoi c'est important, si important la louange, les musiciens vont me rejoindre. C'est parce que la louange est une invitation. Et là, vous me direz, c'est vrai, quand on vient adorer Dieu, on vient l'inviter à venir dans ce lieu, dans nos vies. Oui, et aussi plus loin que ça. C'est que la louange, en fait, est une invitation que Dieu nous fait à entrer dans sa présence. Je regardais ça cette semaine, et alors que je l'étudiais, j'étais frappé parce que quand Jésus parle avec la Samaritaine, ils avaient des rites et des manières d'adorer Dieu de manière différente. Et ils étaient différents des Juifs, c'est même pour ça qu'il y avait un racisme incroyable entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus s'approche de la Samaritaine et puis il lui parle. Et elle dérive sur un autre débat, elle dit « Ah, nous devons adorer sur cette montagne, on nous a dit que l'adoration… » Et là, Jésus lui répond quelque chose de fort, il lui répond en Jean 4, 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà maintenant arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. » Quand Dieu est ici, il n'est pas juste ici pour recevoir, il est ici pour chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Mais si je vous dis, que veut dire adorer en esprit et que veut dire adorer en vérité? On comprend le concept, on comprend que ok, ça peut être poétique, mais en fait, il y a une vraie puissance dans ces mots. C'est que Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit. En esprit voulait dire que ça ne sera plus un lieu géographique ou un autre. Avant, les traditions disaient, ben, c'est sur cette montagne, là où Moïse est venu, là où Jacob, et il y avait le temple même, le temple où la présence de Dieu était. Et Jésus, quand il était sur cette terre, savait que les lieux géographiques, là où on adorait, ne seraient plus, parce qu'il venait accomplir la loi. La présence de Dieu serait à partir de Jésus et du sacrifice de la résurrection. Partout, en tout temps, nous pourrions avoir accès à Dieu. Nous pourrions adorer Dieu en esprit partout. Plus un lieu, plus physique, Plus quelque chose de juste, je fais la tradition, je viens, je fais quelques sacrements, et là, je suis en train d'adorer Dieu. Plus de sacrifice, non, parce que le sacrifice parfait a été fait à la croix. Jésus était en train de dire, un jour, il va y avoir, et le jour est déjà venu, où tu devras adorer en esprit. L'esprit aussi pour nous, c'est pas seulement venir à l'église. L'église, c'est très, très important. Je vous dis pas de pas venir à l'église, au contraire. Il y a une onction que Dieu ne donne à son peuple que quand il est uni et rassemblé ensemble. Par contre, la présence de Dieu n'est pas réservée à ce lieu ici. Il ne faut jamais que tu penses que parce que l'église est un lieu saint, là je peux rencontrer Dieu, mais chez moi, non, non. En fait, si tu cherches un lieu saint, il est ici. C'est pour ça que la sanctification est tellement importante. C'est pour ça que, est-ce qu'en ce moment, ton temple est saint? Quand je viens à l'église ici, je suis heureux parce que je vais voir les autres. Mais quand l'église est vide, je vous le dis, cette semaine, je travaillais, je marchais dans le sanctuaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de choses mystiques ici. C'est juste des pierres mises autour. Quand Jésus nous a sauvés, nous sommes devenus les pierres du temple, les pierres vivantes. C'est pour ça que nous, ensemble, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est ça qui va briller vers l'extérieur pour dire, voici, Jésus est vrai. Jésus est vrai. C'est pour ça que nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Esprit veut dire aussi la partie la plus intime de mon être. Je ne fais pas juste me prosterner, je ne fais pas juste des rites et des choses qui sont, entre guillemets, très physiques. Je veux adorer Dieu avec tout ce que je suis, corps, âme et esprit. Il faut vraiment qu'on comprenne que esprit veut dire, adorer Dieu en esprit veut dire adorer Dieu pour qui il est. Dieu est esprit. C'est pour ça que nous devons l'adorer en esprit. Et en vérité, c'est-à-dire être conforme à la nature de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui adore tout et n'importe quoi sur cette terre. Et ils adorent Dieu en fonction de leur vérité. Ce que je crois de Dieu, ce que je veux croire que Dieu, ce que je veux que mon Dieu soit. Mais ce n'est pas vraiment Dieu, c'est des idoles. C'est des choses qu'on se met entre guillemets, et puis des fois c'est des philosophies, et puis on adore en fait une philosophie, un mode de vie. Alors qu'en fait, quand on vient comprendre que la parole de Dieu, c'est elle la parole de vérité, qui vient nous donner comment Dieu veut qu'il soit adoré, qui est Dieu et quel est le plan de l'humanité pour lui. Et vous savez, ce n'est pas seulement adorer Dieu selon la Bible qui est la vérité, c'est également adorer la vérité. Qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité par laquelle nous pouvons adorer Dieu. C'est pour ça que quand Dieu dit en esprit et en vérité, c'est avec tout ce que je suis, mais en passant par Jésus. Parce qu'une adoration autre qu'en passant par Jésus est une adoration à Dieu sans être réellement en vérité. Que lorsque nous venons devant Dieu en disant, Seigneur, je ne t'adore pas par ma propre force ou par mes propres talents. Non, je viens juste en passant par cette croix-là. La croix de Jésus est une porte qui nous ouvre à la présence de Dieu. J'aime cette citation de Louis Giglio qui dit, Jésus est la porte éternelle par laquelle nous venons adorer Dieu. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que si tu veux adorer Dieu d'une meilleure manière, il faut que tu t'approches de Jésus d'encore plus près. Il faut que tu sois transformé à son image pour que ta vie soit le temple du Saint-Esprit et que tout ce que tu fais démontre Christ dans cette vie ici. C'est pour ça que c'est tellement fort et on va prendre la communion dans quelques instants. Parce que le voile a été déchiré. Alors que Jésus mourait à la croix, il y a un moment donné, quelque chose de très symbolique, mais qui n'a pas fait grand bruit à cette époque. Alors que Jésus était sur le calvaire en train de donner sa vie pour l'humanité, et quand il mourait sur la croix, il nous voyait, toi, moi. Il voyait toute l'humanité et il portait le péché de l'humanité. Il est mort pour que tu n'aies plus à mourir. Et en mourant, il t'a donné le pardon de tes péchés et donc la vie éternelle. Tu as pu être réconcilié avec Dieu parce que Jésus a donné sa vie. En fait, Dieu est devenu homme en Jésus pour que les hommes puissent devenir fils de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour que tu puisses être racheté par lui. Et c'est fort parce que alors qu'il était en train d'être crucifié en l'an 33, à quelques kilomètres de là, dans le temple qui représentait la présence de Dieu, le voile s'est déchiré. Quand Jésus est mort à ce moment-là, le voile s'est déchiré. Mais je vais juste prendre quelques instants parce que c'est tellement important. Le voile représentait un gros drap. C'était énorme. Imaginez ce voile-là d'une épaisseur tellement forte parce que dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint représentait, c'est là où il y avait le coffre de l'Alliance. Là représentait la présence physique de Dieu. Et une fois par année, un seul homme, une fois par année, pouvait entrer dans le lieu très saint, adorer Dieu. Mais il devait être tellement pur, parce que s'il n'était pas saint, sanctifié, il pouvait mourir là. La seule manière de rencontrer, entre guillemets, Dieu et d'être dans sa présence, c'était une seule fois par année, dans un seul lieu, à ce moment-là. Et quand Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est séparé, il s'est brisé, pas de bas en haut parce que c'est des hommes qui ont tiré dessus, c'est Dieu lui-même qui a arraché le voile. Le voile a été complètement séparé pour dire aujourd'hui, il n'y a plus de distance entre vous et moi. Parce que Jésus est venu ouvrir le ciel et par sa mort, il nous offre la vie, le voile a été déchiré, il n'y a plus aucune distance entre Dieu et nous. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir Dieu dans notre vie en demandant pardon pour qui nous sommes, en reconnaissant qu'il est mort pour nous, injustement puni pour que nous, alors que nous devions subir la colère de Dieu a été transmise sur Jésus pour que nous puissions être remplis de la joie de Dieu et son Fils est mort pour que je devienne son Fils. Et à ce moment-là, quand le voile s'est déchiré, Dieu était en train de dire, il n'y a plus rien qui nous freine. Mais trop de fois, nous freinons d'entrer dans la présence de Dieu parce qu'on regarde trop nos fautes. Tu voulais lever les mains ce matin, puis tu dis, non, mais regarde cette semaine, je suis encore... Je ne veux pas être hypocrite devant Dieu. Dieu sait tes fautes. Mais à la croix, il a déjà pardonné tes péchés, passés, présents et futurs. Si Dieu a tout donné pour qu'il puisse être en relation avec toi, pourquoi toi, tu te mets en arrière de la porte qui est déjà ouverte? Christ est la porte. Et si tu as reconnu que sous cette porte, par son sacrifice, j'ai la vie, j'ai le pardon. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vais pas regarder à mes incapacités, je vais regarder à ce qu'il a fait, son sacrifice parfait. C'est pour ça que je vais entrer dans sa présence. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te dis, je ne me sens pas de louer Dieu, c'est là où tu en as le plus besoin. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux quelques instants alors qu'on arrive à la fin de ce message? Mais j'aimerais vraiment prier pour vous. J'aimerais prier pour nous parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Mais trop souvent, nos yeux sont fixés sur nous. Le voile a été déchiré pour qu'on puisse avoir accès à Dieu n'importe quand, n'importe où, aujourd'hui, au Québec, à la Prairie, en 2023, maintenant, ce dimanche. La présence de Dieu est ici. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu veux que la présence de Dieu soit de plus en plus dans ta vie, palpable, présente, et que tu sois changé à son image, que ta vie sente le parfum de la présence de Dieu et qu'autour de toi, les gens reconnaissent en toi une lumière qu'ils cherchent, eh bien, passe du temps dans l'adoration, dans la louange. Honore Dieu pour qui il est. Vois-le, le créateur, le réparateur de ton âme, celui qui peut te donner de l'espoir aujourd'hui, même si ta vie est complètement désespérée. Aujourd'hui, je veux faire un appel à quelqu'un peut-être qui dit, moi, j'aimerais tellement louer Dieu, tellement avec un cœur reconnaissant, mais j'ai l'impression que je suis en dehors de la porte. Aujourd'hui, tu as juste à ouvrir ton cœur à Jésus et à dire, Seigneur, viens faire le ménage dans ma vie. Je te demande pardon pour qui je suis. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même, mais je me sens être au bout de moi-même parfois. J'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver. Si tu as besoin d'un sauveur, le nom du sauveur est Jésus-Christ. Si en ce moment tu dis, je suis en train de me perdre dans ma vie, je ne sais pas où je suis. Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Aujourd'hui, il peut rendre la vie à ce qui est mort en toi. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que tu dis, c'est complètement mort, même, j'ai même plus de goût de vivre aujourd'hui, je vois juste des pensées de mort, j'ai juste envie de quitter cette terre. Dieu a déjà souffert pour que tu puisses vivre une vie ici. Il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te donner la joie que tu recherches. Il veut que tu trouves ton bonheur en lui, car il est le vrai bonheur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Trouve la vie en lui, trouve le pardon que tu as besoin en lui, trouve l'espoir en lui. Aujourd'hui, tu vas juste dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Je te reconnais comme le sauveur qui est venu sauver l'humanité et à la croix, tu es mort pour que je puisse vivre. Tu es mort pour moi, alors aujourd'hui, maintenant, je vivrai pour toi. Change mon cœur, change mes pensées et fais de moi l'enfant de Dieu que tu veux que je sois. Viens briser toutes mes chaînes d'addiction, viens me guérir des blessures qui sont dans mon cœur et aujourd'hui, je te prie, fais de moi quelqu'un de nouveau qui, à ta gloire, chantera tes louanges pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus que tout le monde dit. Amen.